Bonjour Caroline Brouet et bonjour à toutes et à tous.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Lundi soir, la constitutionnalité de l'état d'urgence, c'est-à-dire comme son nom l'indique, une modification de la Constitution française pour y faire entrer l'état d'urgence, a été votée par l'Assemblée nationale en l'absence de 441 députés, apparemment peu concernés par cette décision, pourtant très symbolique, à défaut d'être efficace. L'état d'urgence a été décrété le 26 novembre pour 3 mois. À la suite des attentats, il sera vraisemblablement reconduit pour une période identique. Durant ces 90 jours et des poussières, on a compté environ 3000 perquisitions, au nombre desquelles 560 infractions ont été constatées, portant essentiellement sur la législation des stupéfiants ou du port d'armes. Elles ont abouti à 65 condamnations. Pour ce qui est du terrorisme, une seule enquête révélait à proprement parler de l'antiterrorisme. Une vingtaine de procédures ont été lancées pour apologie du terrorisme. Pendant ce temps, la Ligue des droits de l'homme a demandé la levée de l'état d'urgence. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a jugé l'état d'urgence dangereux pour la démocratie et dénoncé des pratiques de profilage ethnique de la part des forces de l'ordre. Les rapporteurs de l'ONU, enfin, en charge de la promotion et de la protection du droit à la liberté de l'opinion, ont appelé les autorités françaises à ne pas renouveler l'état d'urgence au-delà du 26 février. Apparemment, ils n'ont pas été entendus. Aujourd'hui, pour le deuxième volet de notre journal de la France en état d'urgence, nous avons regardé d'un peu plus près quelques-unes des 392 assignations à résidence qui avaient été prononcées au 29 janvier. Parmi elles, 10 ont été annulées par le ministère de l'Intérieur lui-même et une par le Conseil d'État. La plupart des assignés à résidence n'ont d'ailleurs pas la moindre idée de la date de la fin de la procédure. Selon le Conseil constitutionnel, elle se terminerait avec la fin de l'état d'urgence, ce qui reste assez vague. Être assigné à résidence, ça veut dire être obligé de rester chez soi de 20h le soir à 6h du matin et dans la journée d'aller pointer de 1 à 3 fois au commissariat. Quelques assignés donc racontent aujourd'hui dans le journal d'Olivier Minot, dérive de l'état d'urgence en France, c'est jusqu'à 14h sur France Culture, évidemment.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
Bonjour.
Salut.
Salut. Ça va ? Ben, venez avec moi.
Ok. On va où alors?
L'hôtel de police. Je vais aller signer là. Comme tous les jours.
Combien de fois par jour du coup?
3 fois.
3 fois.
Là je perds une heure de travail. Je suis ouvrier en bâtiment, dans le BTP. Je suis maçon, aide-maçon. Ça fait un mois et demi que ça dure. Que ça descend sur ma paye, en plus les temps de nos jours sont très durs.
Votre employeur vous a permis de vous absenter?
Ouais, il m'a permis, il a été sympa sur ça. Au fond d'eux, ils savent vraiment que je suis ni un terroriste. C'est vrai que j'ai fait des bêtises dans le passé. Je les ai payées. Avec des lourdes peines de prison.
Histoire de quoi, juste pour...
J'ai fait des bêtises. Je voulais le rêve américain et comme tout dans les quartiers, ce qui se passe dans les quartiers.
L'histoire de stup ou...
Ouais, il y a eu ça, vite fait, il y a eu des vols. Mais ça fait pas moins un terroriste. D'avoir dépassé des limites, je le paye et je le paierai tout le temps. Et là, on me le reproche à chaque fois et par rapport à ça, on met assignation à résidence.
Et comment ça s'est passé alors le jour de la perquise?
Ben, j'avais ma fille dans mes bras, elle dormait avec moi. J'ai entendu la porte exploser, j'ai vu plein de lumière. Ça criait de partout et tout, j'ai eu le temps de donner la petite à ma femme, je me suis mis sur le ventre pour leur dire qu'ils n'ont rien à craindre de moi. Cagoulés, on voyait pas leur visage. J'en avais un ou deux inspecteurs en civil qui sont venus me parler. Ben, il m'a sauté dessus, il m'a mis les menottes dans le dos. Je lui dis, je vous pose aucune résistance. Une fois qu'il m'a menotté, il m'a dit ferme ta gueule, il m'a mis une droite. Après, il m'a jeté au sol. Du canapé, il m'a jeté au sol. Il me tapait comme ça avec ses jambes pour que j'écarte mes jambes. Devant mes enfants et ma femme.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fouillé l'appart?
Oh, ils ont retourné l'appartement. Ils ont pris des photos de mon passeport, des livres religieux, pour me dire à la fin merci, au revoir et bonne journée monsieur. Et une semaine après, ils m'ont ramené mon assignation en résidence. Voilà, et depuis là, maintenant, je fais des allers-retours, je signe et je signe tous les jours. Et à 8h, je dois être chez moi. 8h du soir, 20h. Je cloîtrerai à la maison. Maison, boulot, voilà, ma vie. Ça s'appelle la prison à ciel ouvert. C'est, tu fermes ta bouche, tu vas signer 3 fois par jour, on te dit pas quand ça s'arrête, on te dit rien du tout. Et on me laisse comme ça dans le vide, dans le flou. C'est une histoire de fou ce qui se passe là. À cause de gens qui ont fait un attentat à 500 km de chez moi. Bon, vas-y, tout regardez. On est parti à 2h30, il est bientôt 3h. Oui. Je suis pas encore arrivé à l'hôtel de police. Et tous les jours, c'est comme ça. Je paye l'essence à mes frais. On rentre dans un délire. Terrorisée, elle est ma fille. Quand j'ai été menotté, elle me caressait la main, elle me disait « Papa, tu vas pas aller en prison. » J'ai dit « Non, ma chérie, j'ai rien fait, pourquoi tu veux qu'ils m'emmènent en prison et tout ?» Elle comprend pas pourquoi ils sont venus armés, cagoulés. Au début, elle a cru qu'ils allaient nous tuer, quand ils sont rentrés chez moi. Elle a dit « Pourquoi il avait une arme, il voulait nous tuer ?» Après, on lui a dit non et tout, c'est pour leur protection, tout ça. On lui a expliqué pourquoi, tout ça. J'essaie de lui faire comprendre comme je peux qu'il y a des gens qui ont fait du mal ailleurs, que ce sont des méchants qui ont tué d'autres gens et que la police, elle les cherche et elle essaie de les trouver.
Et du coup, comment vous lui avez expliqué qu'ils sont venus chercher chez vous?
Ça, j'ai laissé ma femme faire. Elle a su lui dire les mots, mais elle lui a expliqué que c'était une erreur déjà de la part de la police. Et bon, elle sera toujours choquée. Quand elle voit la police, elle me dit « Papa, il y a la police, elle a peur. » Quand elle sera plus grande, elle comprendra mieux d'elle-même. J'ai une association Espoir Jeunesse. Je suis dans le conseil citoyen des Charolles. Et ce conseil citoyen, il parle des projets de la ville, de tout. Et j'en fais partie. Je suis quelqu'un intégré, qui m'intéresse à la vie politique. On a cru Hollande, mais Hollande, il nous a fait pire que Sarkozy. Pour moi, je me sens plus menacé par Hollande que par Sarkozy.
Alors du coup, la prochaine fois, vous allez voter pour Sarkozy?
Non. Quand même pas. Franchement, Mélenchon. Mélenchon. Après, je vois pas qui.
Hop là.
Je sais pas si on va vous laisser rentrer. Franchement.
On est dans l'hôtel de police de Grenoble.
Ça va et toi?
Ah, vous les connaissez maintenant?
Ouais. À force de venir tous les jours.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez une carte de journaliste, quelque chose, s'il vous plaît?
Une carte de presse, une carte professionnelle.
Voilà, je vais juste prendre l'identité. Olivier Minot. Ben, je vous laisse patienter à l'extérieur. Il est reçu par les collègues et puis dès qu'il ressort, il repartira probablement avec
vous. Vous pouvez pas rester, je suis le
chef
pour un reportage.
Ne patientez à l'extérieur, s'il vous plaît, monsieur Nassar. Je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît, monsieur.
D'accord.
Merci. C'est votre porte.
Journal de l'état d'urgence, vendredi 8 janvier 2016.
J'ai pas pu rentrer avec Brahim dans le commissariat. Il m'a raconté que 3 fois par jour, au lieu de signer le PV de son assignation, il écrivait « Je ne suis pas un terroriste » et que ça faisait sourire les agents. Les policiers grenoblois n'ont pas voulu m'en parler. Par contre, un autre a accepté de me rencontrer, à condition qu'on change son prénom.
Donc moi c'est Bertrand, j'ai 33 ans. Je suis policier sur l'agglomération lyonnaise. J'ai pas d'opinion particulière, mais ce qui est sûr, c'est que si demain les services, les forces de l'ordre débarqueraient chez moi alors que j'ai rien à me reprocher, etc., j'imagine que je me mets à la place de ces gens, ça doit vraiment pas être agréable. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de dire, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, 3000 perquisitions administratives sur tout le territoire, c'est pas si énorme que ça. Et c'est vrai que si ces perquisitions peuvent permettre d'arrêter des terroristes potentiels, je pense que tout citoyen serait d'accord avec ça.
Vous avez l'impression que c'est ça qui se passe ?
Ah ben nous, les policiers, on est des exécutants. On n'est pas là pour réfléchir sur si c'est bien ou si c'est pas bien.
Alors il y a une autre part de l'état d'urgence, ou en tout cas qui a été déclenchée avec l'état d'urgence, c'est sur le port d'armes des policiers en dehors des services. Par exemple, là, vous avez votre arme sur vous. Alors, elle est là. Bertrand voilà. A soulevé sa veste pour me montrer son arme. Voilà. Alors que vous n'êtes pas en service, là, on confirme.
Oui, tout à fait. Donc, écoutez, là, je vous le dis sincèrement, hein, tous les policiers ont été heureux d'apprendre cette mesure. Le policier, il faut pas oublier que c'est un citoyen lambda. Quand il a fini son service, il peut utiliser les transports en commun pour rentrer chez lui. Le transport en commun, ça peut être une cible privilégiée au niveau du terrorisme. On se sent peut-être aussi un peu plus rassuré parce qu'on est nous-mêmes déjà des cibles. Je pense qu'il faut que ça soit prolongé et même, je dirais, de permanence. Donc moi, j'ai 3 enfants. De pouvoir les amener à l'école et de pouvoir se dire, au cas où je suis armé, si un individu est armé, peut-être que j'arriverai pas à neutraliser, mais en tout cas, je serai armé et ça sera toujours mieux que rien. Voilà. Mais il faut pas oublier que au Bataclan notamment, et puis sur ce qui s'est passé le 13 novembre, il y avait des policiers hors service. Et malheureusement, ils n'étaient pas armés. Après, on n'est pas des magiciens, hein, on ne pourra pas forcément arrêter quelqu'un qui a une Kalachnikov. Hein. Mais si on doit pouvoir porter notre arme en permanence, il faut aussi qu'on soit assuré, nous policiers, qu'en cas de danger imminent sur la vie d'autrui ou autre, on puisse faire usage de notre arme sans forcément qu'on remplisse les conditions de la légitime défense.
Journal de l'état d'urgence, vendredi 15 janvier 2016.
Ce soir, j'ai appris sur Twitter que le policier qui passait devant la cour d'assises de Bobigny pour avoir tué Amine Bentoussi d'une balle dans le dos a été acquitté. Le jury a reconnu la légitime défense.
Nasser, donc
bonjour Nasser.
Bonjour.
Ça va, vous allez bien ?
Ça va.
Ouais.
Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le téléphone.
Vous avez quel âge ?
40 ans.
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Là, je suis invalide. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que, comment dire, à l'époque, je travaillais dans une station d'épuration, à Veolia-O. De 2006 à 2009, j'ai travaillé chez eux. Et après 2009, en fait, on m'a fait, comment dire, un reclassement dans une filiale de transport. Les autobus exoi, qui est une filiale de Veolia. Je faisais toujours partie du groupe. Quand j'ai signé mon contrat, comment dire, avec les autobus exoi, il fallait que je passe par la médecine du travail pour voir mon état de santé. C'est là qu'on m'avait dit qu'il y avait un petit problème de santé. En 2011, mon état de santé s'est aggravé et il a fallu que la médecine du travail, c'est-à-dire m'arrête du poste que j'occupais aux autobus exoi. Et que ça s'est avéré, en fait, que je développais une maladie, une cirrhose, qui était liée à des produits que j'avais manipulés, comment dire, auxquels j'avais aucune connaissance.
À la station d'épuration.
Voilà, c'est bien ça. Après les événements du 13 novembre, le 15 novembre, comment dire, on est venu taper chez moi à 8h du soir. Hein, j'étais avec mes enfants, ma femme. J'ai été ouvrir la porte hein, et en fait, il y avait pas mal de policiers qui m'ont dit « Monsieur, voilà, vous êtes assigné à résidence ». Et on me dit que c'était par rapport à mon ancien employeur, Veolia. On m'a demandé de signer le document. Sur le coup, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne signe pas ce document. Et juste après qu'ils soient partis, j'ai regardé l'exemplaire qu'ils m'ont laissé. Et j'ai bien vu que mon ancien employeur, Veolia, m'avait signalé comme quoi que je m'étais présenté sur un des sites sensibles. Je faisais des recherches apparemment sur le stockage des produits chimiques. Et je posais des questions sur l'utilisation des produits chimiques qu'ils utilisaient. Mais c'est vraiment faux de archi faux. Hein. C'est, Je me suis bien présenté à ce site puisque je croisais des anciens collègues qui travaillaient avec moi à la station. Et même le collègue m'avait même invité plusieurs fois à passer à la station pour dire bonjour aux anciens collègues.
Alors comment ils ont pu inventer cette histoire selon vous ?
J'en sais rien du tout. Moi, le seul truc que je sais, c'est que en 2011, j'ai fait une déclaration de maladie professionnelle auquel elle m'a été accordée. Et pour moi, je vois qu'il n'y a que ça qui a dû peut-être les énerver ou un truc comme ça. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dû me faire cette crasse. Voilà. Le lendemain, j'ai été à 7h du matin, j'ai été à la commissariat pour signaler ma présence et comme quoi que j'avais une assignation. Et même le jour que je me suis présenté au commissariat, ils n'étaient même pas au courant. C'est moi qui les ai informés que j'ai une assignation. Ils n'avaient même pas reçu aucun document. On m'a assigné à résidence 4 fois par jour au commissariat du 15e et l'interdiction de sortir du village où j'habite. 4 jours après, en fait, je me suis levé le matin pour aller faire mon premier pointage de la journée. Et à mon retour, on est venu fracturer. Il y a eu une perquisition chez moi. Ils ont forcé la porte de chez moi. Heureusement qu'il y avait ma femme qui était juste derrière. Et il y a eu une vague de forces de l'ordre qui sont rentrées à la maison. C'était des personnes qui étaient cagoulées. Ils étaient quand même assez impressionnants, quoi. Ma femme, elle m'a raconté. Ils l'ont fait pleurer. Il est où, votre mari? Comment il est? Apparemment, ils ne me connaissaient même pas physiquement. Ma femme, elle leur a dit, ouais, mais attendez, ils viennent de partir pour faire son pointage de la journée. Ils n'étaient même pas au courant que j'étais déjà assigné à résidence. Et en fait, il y avait une gravure qui était posée en fait sur la table du salon. Et quand ils ont vu cette fameuse gravure, ils ont posé la question et se sont demandé qui c'était ce barbu. Et ma femme, elle leur a dit, ouais, c'est Léonard de Vinci. C'est le devoir de mon fils. Parce que mon fils, qui est au collège, il avait fait un devoir sur... Léonard de Vinci. Voilà.
Qu'est-ce qu'ils ont trouvé chez vous ?
Ils n'ont rien trouvé de spécial. À part mes médailles militaires, c'est tout. Quand je suis arrivé, en fait, ma femme, elle était assise au canapé, elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas, elle était en larmes. On voyait que ça veut dire qu'elle n'arrêtait pas de pleurer, quoi. J'ai vu mes enfants qui étaient au salon, sur le canapé. Et mon enfant de 13 ans et celui de 10 ans et ma fille de 4 ans. Je les voyais qu'ils n'étaient pas bien. Et il y avait même mon fils qui m'a même demandé qu'est-ce que t'as fait, papa. Et ouais.
Il a douté.
Il a un peu douté. Ils ont fini par comprendre, mais mes enfants, ils sont toujours pas bien, quoi. Je vois, ne serait-ce que comme la petite, elle est toujours collée à sa mère, elle dort plus dans sa chambre. Hein. J'ai essayé de lui expliquer des fois, comment dire, à la télé, qu'elle regarde les policiers, ils sont gentils, voilà. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme avant, quoi. C'est plus ma famille que j'avais laissée. Il y a eu un grand changement. Avec ma maladie, on m'avait détruit ma vie, ne serait-ce qu'avec la pathologie que je développe. Hein. Et là, on a atteint, comment dire, ma famille, quoi. C'est que moi, on m'a complètement détruit, quoi. Il y a des voisins qui me disent même plus bonjour, hein. Et oui. Après, il y a d'autres personnes, certes, qui me connaissent que de vue. Je sens bien qu'on me regarde comme quelqu'un de coupable, quoi. Ma femme travaille au Secours catholique. Et elle en a parlé autour d'elle, hein, et en fait... comme ils nous connaissent, ils connaissaient la famille, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils nous ont aidés comme ils ont pu, financièrement et moralement, ils m'ont soutenu, mais jusqu'à maintenant.
Vous êtes vous-même catholique ?
Non, je suis pas catholique.
Je sais pas, moi, la religion, c'est moi, je suis pas trop dans la religion.
Journal de l'état d'urgence, mercredi 20 janvier 2016.
Aujourd'hui, j'ai rencontré Nasser à Marseille. Finalement, son avocat a convaincu le ministère de l'Intérieur de lever son assignation. L'État a reconnu son erreur.
C'est une bonne chose, l'état d'urgence. C'est sûr que c'est logique. Hein. C'est logique, normal. Hein. Voilà, mais j'ai jamais pensé que ça allait m'arriver à moi. Ouais. C'est que tellement que j'ai rien à me reprocher, j'ai jamais pensé que ça allait m'arriver.
J'ai aussi lu dans la presse qu'aujourd'hui, le Conseil d'État a suspendu une autre assignation et que les organisations de défense des droits de l'homme françaises, européennes, et que même l'ONU s'inquiétait des dérives autoritaires de l'état d'urgence. Je me dis que ça commence à bouger et qu'il n'y aura pas de prolongation.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle David, j'ai 21 ans. Je vis sur Avignon, ça fait un an et demi en fait. Il y a mon amie qui s'appelle Nadia. Elle est mandatée en fait par une association pour venir m'aider dans ma vie quotidienne, pour aller pointer au commissariat, etc. Sonia, sa copine.
Donc vous êtes Nadia ?
Oui, donc en fait moi j'ai été mandatée par l'association Baraka City qui milite pour les droits de l'homme.
Et Sonia.
Voilà, moi du coup j'ai rencontré David parce que j'ai été scandalisée d'apprendre son assignation un peu sans raison. Et en fait nous on l'a connu avec une équipe, on a fait c'est du propre chez David parce que quand ils l'ont perquisitionné, ils ont retourné sa maison, était sans dessus dessous, il y avait de la poudre noire partout pour les empreintes. Donc on a quand même mis 7 heures pour nettoyer son petit appartement, comme David étant non-voyant. C'était très difficile pour lui, il ne retrouvait plus sa cagne, il ne retrouvait plus plein de choses. C'est comme ça que je l'ai connu, et voilà, on est resté en contact.
Alors David, vous vous souvenez quand c'était cette perquisition ?
Oui, c'était la nuit du dimanche 15 novembre en fait, à 1h du matin, et je ne m'y attendais pas. Ils sont venus, ils m'ont cassé ma porte. Et quand ils ont cassé la porte, ils m'ont mis à terre brutalement, ils m'ont mis les menottes. Et la première chose qu'ils m'ont dit, c'était recel de vol en fait. Suite aux objets que j'avais chez moi. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien avoir des choses en plusieurs exemplaires. Parce que quand je fais ça, ça m'enlève de l'angoisse. En fait, tout ce que j'aime bien collectionner.
Alors, c'est quoi les objets que vous collectionnez pour vous rassurer ?
Des téléphones portables, des clés USB, même des CD, j'en ai en plusieurs exemplaires en fait.
Mais ça veut dire combien ?
Une grande quantité, je dirais en fait.
Ça y est.
J'écoute parce que j'aime bien les musiques qui passent et tout, mais ça en plus, j'écoute plus cette émission en fait.
Journal de l'état d'urgence, mardi 19 janvier 2016.
Aujourd'hui, j'ai rencontré un autre des quelques 400 assignés à résidence, David, à Avignon. Il a 21 ans, il est non-voyant, il est de nationalité arménienne, il est arrivé en France avec ses parents quand il avait 12 ans. Et il m'explique que sa famille n'a pas accepté sa conversion à l'islam. Du coup, depuis 2 ans, il vit seul dans un logement social avec une allocation handicapée.
Concernant David, moi ça me paraît hallucinant parce que à la base je le connaissais pas. Quand je découvre le personnage, je découvre un jeune garçon tout timide qui peut paraître suspect parce que oui, il a plusieurs téléphones. Il achète des téléphones parce que c'est son angoisse d'être déconnecté. Ce qu'on trouve hallucinant, c'est que oui, ils ont soulevé qu'il avait pas mal de téléphones, mais ils n'ont pas soulevé qu'il avait peut-être 30 brosses à dents dans un tiroir chez lui. 30 dentifrices, nous on l'a vu. On peut pas lui reprocher, c'est son mode de vie. Il a une bibliothèque chez lui où il n'y a que des livres audio pour apprendre l'espagnol, l'anglais, etc. Et le même livre, il l'a en 4-5 fois. C'est comme ça, c'est David. Ça fait partie de sa logique d'acheter les choses en plusieurs fois.
Ils m'ont confisqué beaucoup de choses. Ils m'ont confisqué tous les CD que j'avais sur l'islam, ils m'ont tout pris. Ils m'ont pris mon iPhone alors que je travaille avec, je reçois mes mails, tout ça, parce qu'il y a une accessibilité. Et ils m'ont confisqué pas mal de choses. Même ma chaîne IFI, ils me l'ont pris. Ils ont pris l'ordinateur Braille. Même ça, ils me l'ont embarqué. Ils m'ont dit que c'était pour ça qu'ils sont venus, en fait. Petit à petit, ils sont passés au terrorisme, en fait. Comme quoi, peut-être qu'avec tout ça, je fais soutien logistique à des groupes pas bien ou des choses comme ça, en fait. Après, à 11h du soir, ils sont venus pour me ramener la feuille qui disait que j'allais être assignée à résidence à partir du lendemain.
Mais est-ce qu'il y a marqué une raison sur...
La possession de plusieurs téléphones, que c'était suspect, ses déplacements, le fait qu'il avait fréquenté le bras droit de la mosquée de Sorgue, parce que cet imam-là est considéré comme imam salafiste. Mais bon, il ne connaît pas l'imam. Il a fréquenté son bras droit, mais pas en tant que responsable de la mosquée, mais en tant qu'ami, parce que cet homme-là lui a rendu beaucoup de services, il faut dire ce qui est. Mais pas plus. Et comme il vous l'a dit tout à l'heure, c'est bizarre, on me reproche de l'avoir fréquenté, mais ces deux gens-là, ils n'ont pas eu de problème. Il n'y a aucune logique, en fait.
Et pour vous, ça, cette histoire de David, ça vous...
Moi, oui, l'histoire de David m'a choquée, mais il y a plein d'autres histoires qui m'ont choquée. Il y a une maman qui a perdu son bébé suite au choc de la perquisition, parce que... Voilà, ils sont débarqués comme des furieux et Je sais pas comment c'est passé, mais ils ont déduit qu'elle avait perdu son bébé à cause du choc de la perquisition. Il y a des pères de famille à Ciné-Résidence qui ont perdu leur emploi. Voilà, avec les élections régionales qui arrivaient, ils ont tapé dedans pour montrer qu'ils étaient là, mais ils ont fait plus de mal que de bien, je pense. Hein. Parce qu'ils ont mobilisé des forces un peu partout en France. Ils ont fait beaucoup de dégâts dans les appartements, ils ont cassé des portes, etc. Au final, c'est l'État qui va payer tout ça. Donc, pour le peu de résultats qu'il y a eu, 3000 et quelques perquisitions, deux enquêtes ouvertes, c'est que vraiment, ils n'ont pas visé là où il fallait. Hein.
Est-ce que vous avez peur pour la suite, David ?
Un peu.
De quoi ?
Que l'assignation prolonge, en fait. Ça me fait peur. Des fois, je déprime à cause de ça. Je prends des médicaments pour essayer d'endormir mon cerveau. Parce que c'est une chose qu'encore aujourd'hui, j'arrive pas à accepter, en fait. Et que je souffre de cette injustice. Et j'arrive toujours pas à accepter pourquoi moi, je suis visée et je dois supporter ça pendant tout l'état d'urgence.
Moi, j'ai 4 enfants. J'ai quand même préparé mes enfants. Je leur ai dit, voilà, n'ayez pas peur si la police débarque. Voilà, on aide David qui a signé à résidence. On peut devenir suspect. Et n'ayez pas peur au cas où ça nous arrive. Voilà, restez calme et on fera le ménage. C'est vrai qu'il y a des jours, on a l'impression que le musulman est devenu le juif d'hier. Hein. Il y a plein de choses qui sont en train de changer. On est vraiment en train de nous stigmatiser. Écoutez les médias, regardez les journaux, regardez les magazines. C'est quoi le sujet ? Islamiste, islamiste, islam, le voile, on n'entend que ça. À un moment donné, voilà, nous, on croise des gens, ils ont peur de nous. Voilà, on va dans les magasins, on a des regards suspects, on s'assoit à côté de quelqu'un dans le bus, il nous regarde bizarre. Voilà, la suspicion, elle est là, on la vit au quotidien. Les regards de travers, les petits... Voilà, on le vit au quotidien et je me dis, ça peut vite tourner. C'est arrivé dans le passé, ça peut vite, la Bosnie, ça, il y a 20 ans. Je veux rester positive, hein, parce que c'est ma nature, mais parfois, c'est pas si simple.
Journal de l'état d'urgence, samedi 30 janvier 2016.
Aujourd'hui, j'ai enregistré la manifestation lyonnaise pour la levée de l'état d'urgence. Finalement, François Hollande veut le prolonger et le Parlement s'apprête à voter une reconduction de 3 mois. Il faut que je me rachète un carnet.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, journal de l'état d'urgence, reportage Olivier Minot, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Brahim, à Nasser, à Laurent Bartholoméi, à David, à Sonia, à Nadia, à Farid Farissi, à Emeline Kazi du journal Le Monde. Vos commentaires, vos réactions, vos suggestions, pour l'instant, c'est plutôt sur les réseaux sociaux. En attendant que nous rouvrions nos commentaires sur notre site Flambant Neuf. Voilà, donc n'hésitez pas à partager nos émissions sur les Facebook et autres Twitter et à vous y exprimer, quelles que soient vos opinions. Je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de France Culture. N'oublions pas que Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre et que dans quelques instants, Marie Richeux vous présente ses nouvelles vagues.